J'en viens à l'ordre du jour. Au point numéro 1 est inscrit. Il n'y a pas de point d'information particulier. L'actualité a été largement reprise par la presse. Alors, il n'y a pas de point d'information sur ce sujet-là. Les conclusions des débats actuels ne sont pas encore claires. Mais éventuellement, si j'ai une question orale ou une question au cours du conseil municipal, je n'ai pas d'informations à vous donner sur Ecomo. S'agissant du point numéro 1, Grande Mosquée de Metz, mise à disposition d'un terrain par bail emphytéotique administratif, je donne la parole à Monsieur Fonté, rapporteur.
Merci, Monsieur le maire. Je vois que ce sujet réussit la diversité sociale et la mixité sociale dans l'enceinte de ce bel hôtel de ville. Monsieur le maire, chers collègues, c'est un honneur qui m'est dévolu ce soir de présenter cette motion. C'est le dossier de la mandature le plus important que Dominique Gros m'ait confié et que j'ai porté avec fierté avec mes collègues Jean-Michel Toulouse, Belkir Beladat, Patrice Enziou et Selima Saïdi. Ce qui nous est soumis ce soir à décision va au-delà de la simple décision administrative. Il s'agit d'accorder un bail emphytéotique à une interassociation musulmane, l'Union des associations culturelles musulmanes, l'UACM, pour la construction d'une mosquée à usage de la communauté musulmane de Metz dans son ensemble, qui se répartit actuellement dans une dizaine de lieux de culte plus ou moins bien adaptés à la pratique du culte et à quelques endroits problématiques du point de vue de la sécurité. Cette initiative est à replacer dans un contexte national où l'on constate que des dizaines de mosquées ont été construites ces dernières années, évitant la pratique du culte dans des lieux indignes ou pire, dans la rue. Chers amis et collègues, ce dossier n'est pas nouveau. Nous l'avons repris en 2008, après promesse de vente par la municipalité précédente, à une seule association du terrain du Petit Bois à Borny pour un projet de mosquée de 2 500 m². Soit l'importance d'une grande mosquée, mais excluant 95% de la communauté. La majorité de l'époque s'en accommodait pour éviter d'autres demandes séparées. Et au vu de l'importance du dossier, nous avons souhaité une démarche rassemblant, autant que faire se pouvait, l'ensemble des associations culturelles, quelle que soit leur origine ou leur affiliation. Dès 2009, nous avons réuni les associations musulmanes. Nous leur avons demandé de s'organiser entre elles pour construire ensemble un projet de mosquée indépendant des États dont sont originaires les musulmans de Metz. Cela a pris certes quelque temps. À l'issue de multiples réunions de travail, elles se sont accordées avec intelligence et ont créé l'UACM, qui représente et œuvre à ce jour pour l'ensemble de la communauté musulmane messine, comme l'indique l'article 2 de leur statut. Ce résultat est exceptionnel. D'ailleurs, cela est si vrai que M. Ferit Buran, vice-président du CRCM, le Conseil régional du culte musulman, qui a été mis en place en son temps par M. Nicolas Sarkozy et membre du conseil d'administration de l'UACM, soutient au nom de cette instance le projet. Les discussions ont porté ensuite sur plusieurs terrains qui ont été testés puis abandonnés pour des raisons diverses, faute d'une faisabilité suffisante, manque de place de parking, voisinage, refus de vente de terrain, etc. Le terrain qui vous est proposé aujourd'hui est adapté. Il est suffisamment grand pour contenir l'immeuble et les places de parking nécessaires, éloigner toute habitation et ne créera aucune nuisance, les installations sportives propriété municipale restant accessibles à tous. Il sera attribué par un bail emphytéotique de 99 ans avec un loyer annuel de 15 € symbolique. La jurisprudence Conseil d'État valide régulièrement ces baux symboliques car le terrain et le bâtiment revenant à la collectivité à l'issue du bail. C'est le seul engagement que prend la ville. Le bail emphytéotique est comparable à celui de la patinoire pour un projet privé utile au public ou pour un édifice culturel, exemple la synagogue, l'église de Notre-Dame de la Confiance à la Grange-aux-Bois, Saint-François d'Assise à Bellecroix et d'autres lieux de culte encore dans la ville. Cette technique est courante dans la gestion administrative de projets urbains présentant un aspect d'intérêt général. Je rappelle très brièvement, sans ouvrir aucun débat là-dessus, que la loi de 1905 et le droit local n'excluent la et encore moins le droit local n'exclut la possibilité de l'intervention publique. Jurisprudence du Conseil d'État constante. Ainsi, voyez l'entretien des cathédrales par l'État, des églises, des temples et des synagogues dans toute la France ainsi qu'en Alsace-Moselle. Voyez aussi les financements validés par le Conseil d'État de mosquées dans plusieurs villes comme Marseille ou Strasbourg. Pourtant, et pour autant, ce n'est pas l'option retenue par la ville de Metz dans le cadre de l'accord qui a été passé avec l'UACM. Celle-ci fera son affaire du financement de son projet. Je rappelle par ailleurs que le plan local d'urbanisme fixe les règles, le cahier des charges de ce qui peut être construit, et c'est la collectivité qui valide le permis de construire. Il s'agit bien d'une décision réfléchie, hors de toute démarche politicienne, comme pour la construction d'une église, d'un temple ou d'une synagogue, tout simplement. Nous sommes dans le plein respect de l'esprit et de la lettre de la laïcité. La communauté musulmane messine, nous la connaissons, vous la connaissez. D'ailleurs, nous nous sommes retrouvés ensemble dans leur local pour l'inaugurer, exactement le samedi 24 mars 2012, chers collègues, chère Madame Zimmermann, souvenez-vous-en, avec le docteur Jacquin, Madame Griesbeck, avec la même sollicitude et soutien partagé pour leur projet de mosquée, reconnaissant par là la légitimité de l'UACMM sans condition préalable. Chers collègues, faisons en sorte que leur hospitalité, avec le thé et la menthe, le pain et le biscuit que nous avons partagé avec eux, ainsi que la parole commune donnée ce jour-là, soit ce soir honorée et non entachée de quelque prétexte superfétatoire pour s'exempter de toute responsabilité. Nous en serons que plus fiers et dignes à nous retrouver ensemble demain soir à la fête de l'Aïn, en réponse à leur invitation, parce que vous y serez, n'est-ce pas ? Puisque je sais d'ores et déjà que beaucoup d'entre vous y seront, chers collègues, nous pourrons ainsi les regarder franchement dans les yeux. Cette communauté est digne, paisible, sans histoire. Elle participe et contribue à la vie et à la cohésion sociale de la cité. Elle contribue à la formation des jeunes pour qu'ils restent dans le droit chemin et respectent les valeurs, droits et devoirs de notre République. Elle œuvre également pour le respect de la vie et de la tranquillité publique dans nos quartiers. Elle est le meilleur rempart contre tous les prédicateurs et recruteurs intégristes de tout poil. Cette communauté se situe dans le droit fil de ce que Nicolas Sarkozy qualifiait d'islam de France. Je partage la formule, mais juste cette formule, si vous voulez bien. Comme nous, ils combattent l'intégrisme sous toutes ses formes, ici, chez nous et dans les pays de leur origine, car ils savent que l'intégrisme, quel qu'il soit, opprime et tue aveuglément femmes et enfants, tant les chrétiens qui y vivent que les musulmans modérés qui sont leurs frères. Ils savent que tous les responsables politiques de l'arc républicain, qu'ils soient de droite ou de gauche, sont attachés au respect des religions et à la tolérance contre tous les extrémismes. Ils sont français et intégrés à la France et à ses valeurs de liberté, égalité, fraternité et laïcité. Ils font partie de l'identité de la France. Je vous invite donc à voter cette motion. C'est une décision de bon sens et d'ouverture en direction de croyants qui aspirent à être traités comme les autres croyants. C'est aussi une décision de courage et de réhabilitation du politique dans le contexte grandissant du repli sur soi et de la peur de l'autre. Je vous remercie de votre attention. La motion est en conséquence.
Merci, Monsieur Fonté, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Fonté. Alors, je voudrais faire part à l'Assemblée que j'ai reçu un projet d'amendement de Madame Marie-Josée Marmade et de Monsieur Patrick Thiel. Je propose qu'il soit examiné. Je me tourne vers les présidents de groupe. Y a-t-il un obstacle à ce que cet amendement soit examiné ? Alors, je suppose que non. Y a pas d'objection, Monsieur Lécadire ? Alors, on va examiner l'amendement. Alors, donc, puisque cet amendement est examiné, en suivant le règlement intérieur, je demande au porteur de l'amendement de prendre la parole pour le présenter. Madame, vous avez la parole. Et je demande à ce qu'on le distribue, s'il vous plaît. Que chacun ait l'amendement devant les yeux. On le distribue en même temps.
Ah, pardon, excusez-moi. Oui, oui, monsieur le maire, je vais le lire, cet amendement, avant d'expliquer la position donc, que nous avons. Je parlerai alors d'abord sur l'amendement et sur je dirais, la position des deux groupes, d'abord au nom des deux groupes, et il y aura des explications supplémentaires dans certains domaines qui seront faites à la fois par Nathalie Collin-Osterlé et Emmanuel Lebourg.
Madame Zimmermann, oui, excusez-moi, je vous rappelle le règlement intérieur.
Oui.
Le débat sur la motion aura lieu après l'amendement. L'amendement,
d'accord,
d'abord lui-même, on vote sur l'amendement et
donc,
après ça, débat
je
général.
Vous lis, je voilà. vous lis merci, l'amendement. La présente délibération ne s'appliquera que sous réserve que le projet associe les représentants de l'ensemble de la communauté musulmane de Metz. Et je dis bien l'ensemble de la communauté musulmane de Metz, et que ceux-ci aient donné unanimement leur accord sur le principe qu'aucune participation financière ne sera demandée à la ville de Metz pour la réalisation, l'équipement ou le fonctionnement du bâtiment de la mosquée et des éventuels bâtiments cultuels ou culturels attenants, en sachant que nous sommes aujourd'hui dans un système de droit local, que, je l'expliquerai tout à l'heure, d'autres communautés ont construit des lieux de culte sans obtenir quoi que ce soit, ni terrain, ni subvention. C'est le premier point. Deuxième point, je souhaiterais vivement qu'il y ait, lorsque M. Fonté vient de nous expliquer qu'il y avait un accord de toute la communauté, je souhaiterais, Monsieur le maire, que vous nous donniez l'ensemble des communautés qui et l'ensemble, je dirais, des protagonistes qui ont donné leur avis sur cette question, parce que lorsque monsieur
Madame, on parle de l'amendement là.
Oui, mais
donc, je vais mettre l'amendement
au
voix. Non, je prends le règlement intérieur strictement. L'amendement doit être au voix. Vous avez une minute pour l'expliquer. Vous avez déjà largement expliqué. Donc, on va mettre cet amendement au voix, puisque c'est le principe de nos statuts. Et ensuite, nous reviendrons sur le débat une fois que l'amendement aura été voté ou non. Alors, je vais prendre la parole en ce qui concerne la majorité municipale sur cet amendement, pour d'abord m'étonner de son arrivée, puisque j'ai reçu en même temps, et je suis très perplexe, j'ai reçu aujourd'hui, et je remercie M. Patrick Thiel de son intervention dans le prochain Metz Magazine, où je lis, je vous cite M. Thiel, puisque le projet du maire ne répond en rien à tous ces points fondamentaux, c'est pourquoi nos deux groupes ne l'ont pas voté. Donc, si vous voulez, je sais déjà le résultat, donc on va mettre cet amendement aux voix, mais je suis extrêmement perplexe sur le fait que vous me proposiez un amendement pour éventuellement voter une motion dont vous m'indiquez déjà que vous ne l'avez pas votée. Donc, je prends acte, mais après tout, il y a un peu de théâtre dans toute la démocratie, puisque vous avez déjà donné la sortie, on va quand même jouer la pièce, mais je vous remercie de m'avoir prévenu que vous ne voteriez pas ce point indépendamment de l'amendement. Cela dit, je vais moi vous dire pourquoi je propose de ne pas voter cet amendement. Je vous propose de ne pas voter cet amendement tout simplement parce que vous demandez que toute la communauté musulmane unanime donne son accord. Si vous voulez, moi je ne peux pas préjuger d'un accord unanime d'une communauté qui par définition n'a pas de clergé. Je vous rappelle qu'en islam, il n'y a pas d'évêque, si je puis dire, pour faire simple. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité d'avoir la garantie que tous les musulmans sont derrière. Alors que normalement, hein, dans d'autres religions, en particulier dans une que je connais bien, eh bien, effectivement, il y a un clergé, il y a une hiérarchie. Donc moi, je ne peux, absolument pas exciper pour les autres, et singulièrement pas pour des musulmans qui, dans leur ensemble, eh bien, ont chacun, en groupe, ont des pratiques et des approches différentes. On est bien placé pour le savoir dans l'actualité. Deuxièmement, vous parlez de la réalisation, l'équipement ou le fonctionnement du bâtiment de la mosquée et des éventuels bâtiments culturels ou culturels. Moi, je ne vois pas pourquoi nous le faisons actuellement. On ne pourrait pas financer du fonctionnement culturel, alors que quand il y a une manifestation qui se passe dans quelles que soient les origines, que ce soit une manifestation protestante, ou les chants sacrés, on a des tas de manifestations culturelles, qui relèvent de religion. Il y a le printemps des religions, il y a des expositions à la cathédrale, il y a la semaine de la culture juive, il y a énormément de manifestations de toute nature, et moi je ne vois pas pourquoi on devrait s'interdire ad vitam de financer, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais en tout cas au moins ne pas s'interdire de l'examiner. Donc moi-même je ne peux pas accepter, indépendamment du fait que je connais déjà, on va quand même débattre, mais je connais déjà le vote, mais moi je vais demander à la majorité municipale de ne pas voter cet amendement parce que je ne veux pas m'engager, tout simplement, sur un, vous voyez, versement d'une subvention d'équipement au conseil presbytéral de la paroisse protestante, c'est aujourd'hui, mais vous avez aussi la salle Braun, c'est une institution protestante, on finance, c'est de la bonne culture, mais j'aime bien ça, j'y vais volontiers, et moi je ne veux pas m'interdire un jour, s'il y a un bon théâtre qui est dans une institution musulmane, de le financer au même titre que je finance la salle Braun. Donc je demande de ne pas voter cet amendement, on va débattre sur le fond maintenant, mais je mets tout de suite l'amendement aux voix. Alors qui est pour l'amendement? Alors on compte, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est toute l'opposition?
Non.
Pardon? Qui s'abstient? Y a-t-il des abstentions? Qui est contre? Ah oui, il y a un membre de l'opposition qui est contre. D'accord. Eh bien, écoutez, l'amendement est repoussé. Maintenant, je mets au débat et je redonne la parole à Mme Zimmermann, qui l'avait demandé la première. Je vais demander d'abord qui veut prendre la parole, puisque je préfère... sur le rapport, bien entendu, maintenant, indépendamment de l'amendement. Donc, Mme Zimmermann va reprendre la parole. Donc, Mme Colin-Osterle, il y a du monde. Mme Quillot, Monsieur Lebeau, de l'autre côté. Monsieur Thiel, peut-être? Non, pardon. Monsieur Thiel n'intervient pas. C'est vrai qu'on a déjà votre point de vue. Monsieur Maréchal. Eh bien, voilà. Écoutez, vous avez la parole, madame.
Merci, monsieur le maire. Je tiens tout d'abord à rappeler, monsieur le maire, mon attachement à deux principes fondamentaux. Le premier est celui de la liberté de culte, chacun devant pouvoir pratiquer librement sa religion. Le second est celui de la défense du droit local, lequel accorde un régime spécifique au culte dit reconnu. En application du principe de la liberté de religion, il convient donc de ne pas s'opposer aux initiatives prises pour la création de lieux de culte, sous réserve, bien entendu, de respecter les valeurs républicaines. En fait, le vrai problème qui se pose est celui de l'éventuelle participation de la collectivité par la mise à disposition d'un terrain ou par un financement direct. Jusqu'à présent, lorsqu'une religion, notamment des religions chrétiennes non reconnues, ont construit ou aménagé un lieu de culte à Metz, la municipalité n'a jamais ni fourni le terrain, ni apporté de subvention. C'est le cas, par exemple, à la Grange aux Bois, ou rue Clotilde Aubertin pour l'église néo-apostolique, ou pour l'église évangélique de Pentecôte, ou encore pour l'église baptiste Colombier. Pour le culte musulman, plusieurs salles de prière ont été aménagées, et je comprends le souhait de la communauté musulmane de disposer d'une structure d'accueil plus satisfaisante. Et je partage ce souci. Afin de répondre à cette aspiration, la ville propose de mettre à disposition un terrain, ce qui pourrait faciliter la pratique du culte musulman par les fidèles. Cela suppose cependant une triple clarification. Premièrement, la communauté musulmane est divisée en différents courants selon les origines géographiques, turques, maghrébines, ou les croyances chiites ou sunnites. Il convient donc de s'assurer que les initiateurs du projet s'expriment bien au nom de l'ensemble de la communauté musulmane et non comme porte-parole de tel ou tel courant. Deuxièmement, si pour la religion musulmane, la ville met à disposition le terrain destiné à une mosquée, les demandes qui émaneraient à l'avenir d'autres religions devront être traitées strictement de la même façon. En outre, si dans un délai de 5 ans, le projet de mosquée n'a pas abouti, la ville doit pouvoir récupérer le terrain. Troisièmement, nos concitoyens souhaitent que le budget de la ville soit bien géré afin d'éviter une nouvelle augmentation de leurs impôts locaux. Il faut donc être d'accord pour qu'aucune participation financière de la ville de Metz ne soit affectée à la construction ou à l'aménagement ni de ce projet de mosquée, ni de tout autre projet pour une religion non reconnue par le droit local d'Alsace-Moselle. Conjointement avec mon collègue Patrick Thiel, nous avons déposé un amendement et la triple clarification que je viens de vous demander, je souhaiterais avoir une réponse de votre part et nous conditionnerons bien entendu de manière formelle notre vote à l'adoption préalable de cet amendement. Merci.
Merci, madame. Madame Collin-Sterlet.
Oui, monsieur le maire. Notre pays est la plus grande communauté juive d'Europe, la plus grande communauté arabo-musulmane d'Europe. Nous sommes la fille aînée de l'Église, mais nous sommes d'abord la République et la laïcité, c'est notre pacte. Le culte musulman, à l'instar des autres grandes religions, a bien évidemment le droit dans notre cité de disposer d'un lieu de culte visible et reconnu au sein de l'espace public. Et je le dis avec force, le respect du pluralisme religieux et l'expression de la diversité religieuse doivent nous conduire, en tant qu'élus responsables, garants de la laïcité et de la prise en compte de nos compatriotes qui, au prix de leur vie, ont fait de la France ce qu'elle est, à considérer la communauté musulmane comme faisant pleinement partie de la nation. Les générations nées en France sont d'ailleurs pleinement françaises. Ce qui me semble en revanche tout à fait critiquable et d'une duplicité coupable, j'ose le dire, c'est le moment choisi pour lancer un tel débat. Certes, ce projet de mosquée figurait dans votre programme, c'était en 2008. 5 ans se sont écoulés. Et c'est à 5 mois de l'échéance, monsieur le maire, 5 mois de l'échéance électorale, qu'émerge l'opportunité d'un terrain. Alors, il est vrai que vous l'aviez déjà évoqué à la veille de précédentes élections, à grand renfort de conférences de presse, mais j'ose vous le dire, vos résultats au premier tour sur votre canton auraient dû vous inciter à davantage de prudence. Ce soir, vous ne trompez personne. Et le premier reproche que l'on puisse vous faire est d'instrumentaliser une communauté alors que chacun sait ici que c'est dans le cadre d'un débat apaisé et serein que l'on fera émerger l'islam de France que tous, et le Premier ministre au premier chef, appelons de nos voeux. Le second reproche, et il n'est pas des moindres, c'est de sortir effectivement ce dossier à quelques mois des échéances dans le seul but, et vous le savez, de faire prospérer des thèses portées aujourd'hui par les extrêmes dans un contexte de crise économique et sociale jamais égalé, et en espérant bien sûr que ce vote affaiblira la droite républicaine. Alors oui, je dis que là, vous jouez avec le feu. Et vous allez porter une responsabilité majeure qui dépasse l'entendement au mépris des valeurs républicaines que nous sommes tous censés défendre ici. Vous accordez un terrain alors que le dossier n'est absolument pas abouti. En effet, que les municipalités soient de droite ou de gauche, pour chaque dossier, que l'on soit à Mulhouse, que l'on soit à Strasbourg, les mêmes questions préalables à débattre de manière transparente se sont toujours posées et elles sont de deux ordres. La représentativité de l'association porteuse du projet, ce qui a déjà été dit, l'origine des fonds permettant le financement de la construction de l'édifice religieux. Concernant la représentativité, l'UACM ne regroupe pas aujourd'hui toutes les sensibilités de la religion musulmane. Que faites-vous des autres? Et c'est là un point extrêmement important qui, notamment, a fait l'objet de l'amendement déposé par nos deux groupes et présenté ce soir par Mme Zimmermann. S'agissant du financement, nous disposons aujourd'hui d'aucune information nous permettant de connaître l'origine des fonds permettant le financement de cette mosquée. Or, il s'agit là d'une question essentielle et une question qui préoccupe chacun de nos concitoyens. À ces deux questions qui, je le redis, sont essentielles, vous n'apportez aucune réponse, alors que rien ne vous empêchait de réserver ce terrain pour l'avenir dans l'attente de toutes les garanties qui s'imposent, dans un climat, je le redis, apaisé et serein. Alors oui, je suis malheureusement convaincue que ce sont des considérations électoralistes qui vous amènent ce soir à présenter un dossier non abouti, et je le regrette profondément. Je le redis, pour que ce soit très clair et bien entendu, le culte musulman doit et a le droit, dans notre cité, de disposer d'un lieu de culte visible et reconnu. Mais aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. Je vous remercie.
Madame Kiyo.
Oui, monsieur le maire, chers collègues, d'abord, puisque j'ai la parole, c'est vrai que cet amendement, je le trouve restrictif et je trouve qu'il hypothèque l'avenir. Enfin, bon, voilà pourquoi je n'ai pas voté pour. Alors, par ailleurs, je souhaiterais reprendre la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Je voulais aussi citer quelques extraits de la récente charte de la laïcité. Elle dit que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, qu'elle respecte toutes les croyances, qu'elle garantit la liberté de conscience à tous et que chacun est libre de croire ou de ne pas croire, et qu'elle permet la libre expression de ses convictions dans le respect de celles d'autrui et dans les limites de l'ordre public. La laïcité permet aussi l'exercice de la citoyenneté en conciliant la liberté de chacun avec l'égalité et la fraternité de tous dans le souci de l'intérêt général. Et enfin, je vais citer des extraits de l'article 13 de la loi du 9 décembre 2005. Les édifices servant à l'exercice public du culte ainsi que les objets mobiliers et les garnissants seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer, auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués. L'État, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi. Alors, pour en revenir à notre débat, certes, en 1905, le culte musulman n'existait pas en France, donc il n'a pas pu disposer d'édifices servant à l'exercice de ce culte. Mais aujourd'hui, pour ne donner que les chiffres en Alsace-Moselle, l'islam compte environ 100 000 fidèles dans ces trois départements. Alors, est-ce qu'il est raisonnable de rester dans une situation inégalitaire qui veut que les lieux de culte, propriété de collectivités entretenues par elles, soient réservés aux seules quatre religions présentes en 1905 ? Faut-il s'accrocher à l'histoire pour refuser de régler cette question ? Merci, Patrick. Merci. 1804, pardon. Au vu de l'évolution du nombre de croyants et de pratiquants dans les différentes religions, pour moi, les Français musulmans sont des citoyens comme les autres. Ils ont le droit de vivre et d'exprimer leur foi avec diverses sensibilités. La pratique de l'islam nous interpelle, nous dérange, mais elle vient aussi enrichir le débat citoyen, culturel et spirituel. Pour être tolérés, les musulmans devraient se fondre dans le paysage. Ils demandent à être reconnus, et cette reconnaissance passe par la visibilité, avec notamment l'édification de lieux de culte spécifiques. Donc pour moi, en reconnaissant leurs droits, nous pouvons également leur rappeler leurs devoirs, comme à tout citoyen. Et nous gagnerons tous à favoriser l'existence de lieux ouverts, à la rencontre et au dialogue avec d'autres, croyants et non-croyants, chercheurs de sens et d'intériorité. Je vous remercie.
Merci, madame. Merci, madame. S'il vous plaît. Monsieur Lebeau.
Monsieur le maire, chers collègues, avec cette motion, la ficelle est un peu trop grosse. Pourtant, dans de nombreuses villes européennes, les projets de construction d'une nouvelle mosquée sont devenus des événements politiques. Les intellectuels prennent position, les hommes politiques soignent leur réputation et les citoyens peuvent considérer d'un œil sceptique ces projets. Or, à Metz, vous en avez fait un élément de manipulation de l'électorat messin. À la veille d'élections importantes, vous avez essayé de monter les messins les uns contre les autres en agitant le chiffon rouge de la mosquée à Metz pour faire gonfler les voix du Front National. Cette technique bien maîtrisée vous avait permis d'éviter de perdre les élections cantonales en 2011 à Metz 1 grâce à la présence d'un candidat du Front National au second tour. Je vais essayer de démontrer la manipulation à travers la genèse de cette motion. Premièrement, à la veille des élections cantonales, comme je le disais, en janvier 2011, une grande communication est faite sur la création de l'UACM, Union des associations culturelles et culturelles des musulmans de Metz, pour élaborer un projet commun d'une mosquée qui fédère les aspirations de tous. Deuxièmement, À la veille des élections législatives, en janvier 2012, la municipalité communique à grand renfort sur la mise à disposition d'un terrain rue de Beltanche, derrière la maison de retraite Saint-Maurice, pour y construire la grande mosquée. Pour mémoire, c'était à la une du Républicain Lorrain le 22 janvier dernier. La grande mosquée de Metz pourrait être bâtie rue de Beltanche. Seul problème, le terrain appartient à la congrégation religieuse des Sœurs de Saint-Vincent de Paul, qui envisage, elle, un autre destin. Suite à cette nouvelle péripétie, le Républicain Lorrain écrivait le 14 décembre 2012, je cite, « La communauté musulmane a la mauvaise impression d'être l'objet d'un calcul électoral. À force de traîner, l'accord pourrait tomber pile avant les élections municipales, par exemple. » Trois petits points. Troisièmement, or, comme le prévoyait le RL, nous voilà à la veille des élections municipales, fin octobre 2013, et nous assistons à une nouvelle grande communication sur la mise à disposition d'un nouveau terrain, boulevard Solidarité, pour y construire la grande mosquée. Et ce soir, monsieur le maire, vous nous proposez un projet de délibération mal abouti, mal construit. Un bail avec une condition suspensive d'un dépôt de permis de construire au plus tard dans un délai de 3 ans. Encore, on pourra faire une énième communication. Pour montrer la manipulation de cette motion, je ne prendrai qu'un seul exemple, celui du prix du loyer. Le prix du loyer qui est prévu dans cette motion, dans ce bail, est de 15 euros par an pour une durée de 99 ans. Alors que l'estimation des domaines que vous avez eu l'amabilité de nous transmettre évalue le loyer à 2000 euros. Or, à Marseille, le tribunal administratif a annulé une délibération totalement similaire. Un bail de 300 euros par année sur 99 ans pour la grande mosquée, car le tribunal administratif a jugé le montant de ce bail anormalement bas. Or, cette question importante d'un nouveau lieu de culte à Metz mérite d'avoir un débat apaisé, réfléchi, partagé par tous les Messins et loin, loin d'une période électorale afin d'éviter toute manipulation de l'électorat. Toutefois, monsieur le maire de Metz sortant, vous essayez une fois de plus d'en faire un enjeu électoral, permettant ainsi d'entretenir une tension forte entre les Messins pour amplifier les extrêmes, dans le but de faire son jeu et d'essayer d'éviter de perdre les prochaines élections municipales. Monsieur le maire, n'est-ce pas un peu trop grossier ?
Monsieur Maréchal.
Merci, monsieur le maire. Mesdames, messieurs, dans la vie de nos institutions publiques, il y a des débats et des votes qui peuvent renforcer, faire progresser notre vivre ensemble, indissociable de nos valeurs républicaines. C'est parce que je suis profondément laïque que je considère qu'il nous faut être attentifs à traiter ensemble l'ensemble de nos citoyens, israélites, protestants, musulmans, chrétiens, athées, agnostiques, de la même manière, en permettant, en assurant le respect de la conscience, le respect de la pratique religieuse s'il a lieu. La laïcité est un principe actif qui permet la mise en scène de nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Liberté. Les musulmans de Metz ont le droit de pratiquer leur culte dans des conditions qu'ils peuvent eux-mêmes définir. L'existence d'une mosquée, d'un lieu de prière, est un droit fondamental pour le communiste que je suis. Égalité. Chacun peut reconnaître ici que la deuxième religion de France dans ce pays est traitée de manière discriminatoire. L'islam doit pouvoir se pratiquer dans des conditions déterminées par les musulmans eux-mêmes. Fraternité, nous pouvons ce soir, par un vote unanime de notre Assemblée, envoyer un message de tolérance et de fraternité d'abord à tous les musulmans et au-delà, à tous ceux qui considèrent que vivre ensemble peut se renforcer chaque fois que la vraie laïcité progresse. Une laïcité de partage, une laïcité de progrès, une laïcité de tolérance. En votant cette motion, nous ne faisons que suivre les recommandations du Haut Conseil à l'intégration. En l'an 2000, qu'est-ce qu'il constatait ? Une atteinte à l'égalité de traitement entre les religions et préconisait, je cite, la mise en place de bails emphytéotiques pour permettre la construction du lieu de culte après concertation entre municipalités et les communautés concernées. La crise que vit notre pays, n'est pas seulement une crise économique et sociale, c'est aussi une crise anthropologique, car elle affecte gravement la qualité du vivre ensemble. Nous avons le devoir de faire progresser la tolérance et la fraternité. Vous me permettrez, pour terminer, de citer quelques vers de Louis Aragon. Ceux qui croyaient au ciel, ceux qui n'y croyaient pas. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui sont à ses querelles, au cœur du commun combat. La rose et le réséda. Je vous remercie.
Merci, monsieur Maréchal. Merci, monsieur Maréchal, pour cette citation d'Aragon. Je voudrais remercier la quasi-totalité des orateurs pour la grande qualité de leur intervention. Je crois que, sincèrement, il y a ici une grande majorité des conseillers municipaux qui respectent ce débat. Je voudrais répondre à un certain nombre de points qui sont des points secondaires par rapport au fond de l'affaire. D'abord, je voudrais dire à M. Thiel, que je fréquente depuis longtemps, que M. Thiel connaît bien l'histoire de Metz et qu'il a souvent parlé de Metz la tolérante. Pas souvent, très souvent parlé de Metz la tolérante. Metz a réussi à passer à travers les guerres de religion à peu près indemnes, jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes. Parce qu'à Metz, justement, il y avait, pendant certaines périodes très importantes où ça faisait la guerre ailleurs, la capacité à se respecter dans la tolérance. C'est la grande période du dialogue irénique entre Bossuet et le pasteur Ferry, qui sont célèbres. J'ai ces livres dans ma bibliothèque, c'est des splendeurs de débats. Je voudrais dire que M. Thiel est revenu souvent sur cette idée de Metz la tolérante. Et je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de l'importance de la population musulmane, je m'y rends de temps en temps, comme le font les uns et les autres, aux fêtes. Hein, et j'allais dire les fêtes carillonnées, non, les fêtes musulmanes. Et j'ai vu des gens qui devaient prier dans des conditions très difficiles, dans des conditions qui n'assuraient pas la sécurité des gens, tellement l'entassement était grand. Et je pense que ce que nous avons réussi à faire difficilement, je l'avoue, et ceci explique largement le calendrier, d'arriver à rassembler un maximum de membres de ces différentes communautés, y compris d'ailleurs les représentants de l'islam officiel, vous savez, celui qui est regroupé au titre du gouvernement, puisque le vice-président de l'organisme régional est membre du bureau de l'association à laquelle nous avons affaire aujourd'hui. Il est par ailleurs d'ailleurs adjoint au maire de la commune voisine de Voipy. Alors je voudrais vous dire que cette tolérance, il faut la conjuguer au présent, monsieur Thiel. Il faut la conjuguer au présent. Nous avons notre histoire, elle est, dans ce domaine-là, elle est noble. Et effectivement, nous pouvons nous enorgueillir d'avoir des grands personnages, aussi bien de la communauté juive que de la communauté chrétienne, catholique, de la communauté protestante. Maintenant, les musulmans sont nombreux. Que nous demande cette association ? Ils ne nous ont pas demandé de l'argent. C'est la raison pour laquelle, dans le rapport remarquable qu'a fait M. Fonté, il est bien indiqué que nous ne nous positionnons pas, comme par exemple la ville de Strasbourg, qui a bénéficié, qui a donné non seulement par bail emphytéotique le terrain, mais qui a apporté du financement, ainsi que d'autres collectivités locales de tous bords. J'entends bien de tous bords, UMP compris, hein, région, département, et au total 22% du total de la construction. Nous, et c'est en Alsace, dans une zone complètement concordataire autant que la nôtre. Et à Voipy, dont le maire, à ma connaissance, est UMP, c'est-à-dire le même parti politique que Mme Zimmermann, et donc qui sont ensemble dans la même pensée politique, eh bien, et que M. Thiel, c'est vrai, eh bien, il y a eu un financement municipal, hein, très important et un financement complémentaire de l'ANRU au niveau de l'État. Bien, nous n'en sommes pas là, nous mettons simplement à disposition le terrain. Et pourquoi n'avons-nous pas pu nous le faire plus tôt? Parce qu'on a eu, c'était pas simple. L'association n'a été créée qu'en 2010, parce qu'il a fallu qu'il faut discuter, comme je l'ai expliqué. Eh bien, chez les musulmans, c'est pas simple, parce qu'il n'y a pas de chef, donc il faut se mettre d'accord. Et c'est pas encore 100% gagné, mais c'est à 70% gagné, et on est bien content. Alors donc, on est là devant simplement une avancée dans le domaine de la tolérance et du respect des croyants qui sont en difficulté dans les lieux de culte actuels. Je voudrais simplement dire, pour imaginer ce qui peut se passer, que la communauté israélite de Metz, par exemple, elle a un bâtiment au 39 rue du Rabbin Eli Bloch, il a un bail emphytéotique de 99 ans, et ça se termine en 2056. Vous voyez, et donc c'est important. L'église Saint-François d'Assise à Bellecroix, pareil, il y a une mise à terrain à disposition 15 euros. L'église Notre-Dame de la Confiance à la Grange au Bois, redevance de 30 euros par an, conseil de fabrique, paroisse de Borny. Chapelle Saint-Paul, conseil de fabrique, paroisse de Borny, c'est rue du professeur Jean de Lys, 15 euros par an. Chapelle du Saint-Esprit à Borny, 15 euros par an. Je le dis, oui, puis j'ai parlé de Voie-Puy, j'ai parlé de Strasbourg, où il s'agit bien de mosquées. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas là, on est simplement en train de prendre tout le monde de la même façon, et j'ajouterais que la Cour administrative d'appel s'est déjà penchée sur ces problèmes. On n'est pas les premiers. Et donc, je vais vous donner le résultat. Si jamais l'idée venait à quelqu'un d'aller au tribunal administratif, il y a eu la Cour administrative d'appel de Versailles qui s'est prononcée et qui a dit clairement que le bâtiment reviendra en fin de bail à la collectivité, c'est le même cas que nous, c'est à Montreuil, hein, qui pourra alors le céder au prix fixé par le service des domaines. La redevance annuelle égale à 1 euro symbolique, c'était même pas 15, c'était 1. Ne peut être considéré comme une subvention déguisée. Voilà, Cour administrative d'appel de Versailles, 3 juillet 2008, commune de Montreuil-sous-Bois. C'est pour vous dire que nous sommes complètement bordés sur le plan administratif et juridique. Nous sommes bordés, nous sommes très modérés par rapport à ce que font d'autres collectivités, soit à Voie-Puy, soit en Alsace, parce qu'en Alsace, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, puisque l'association ne nous a pas demandé, l'UACM ne nous a pas demandé de financement. Et donc, moi, je souhaite vraiment que l'ensemble des conseillers municipaux votent cette motion. Je le souhaite. Parce que j'ai beaucoup de respect pour les croyants. Il y en a dans cette salle. Et nous le savons, de plusieurs religions. Ces croyants, pour moi, ils ont la même valeur à mes yeux de maire. Et quelque part, l'histoire des religions est contributive de l'histoire de Metz, plus encore que dans d'autres villes. Nous sommes une ville qui a été largement construite. Rappelez-vous qu'à un moment donné, c'était l'évêque qui dirigeait la ville de Metz. Hein ? Nous avons été largement construits sur des différences religieuses et nous avons survécu à d'éventuelles querelles. Aujourd'hui, nous faisons un geste symbolique en direction de cette communauté importante et je vous demande de le prendre en compte. J'ajouterai que, honnêtement, permettez-moi, je vais répondre à Madame Colin Osterlé. Permettez-moi de vous dire, Madame, qu'en aucun cas, il s'agit d'un calcul de ma part. Je suis trop bête pour ça, vous savez, je suis trop bête pour ça. Je ne calcule pas ce genre de choses. Depuis le début, j'ai dit stop à un projet d'une communauté qui était envisagé, vous le savez, Monsieur Thiel, largement. J'ai du courrier, il y a des documents, etc. J'ai dit stop. Et je me suis référé à une étude qui date de 2003, Monsieur Thiel, vous la connaissez, qui disait si jamais un jour, je l'ai là, si jamais un jour, les communautés musulmanes de Metz voulaient bien se mettre d'accord, il faudrait reconsidérer l'avis que nous donnait cette étude qui nous disait que ce n'est pas le moment de se précipiter, ils sont chacun dans leur coin. Or, nous avons maintenant cette association qui a regroupé la majorité des musulmans de Metz. Si bien que ça correspond... Non, j'ai dit la majorité, je n'ai pas dit la totalité. Mais la totalité, madame, permettez-moi de terminer.
Et donc, la totalité des...
Je dis que nous avons atteint un moment de cristallisation et plutôt que de le faire au cœur de l'été, on m'aura encore reproché de ne pas avoir refusé le débat, je le fais maintenant. On est tout à fait dans la logique des choses. Faites-moi la grâce de considérer qu'il ne s'agit pas d'un calcul, mais simplement de la décision d'un maire, premièrement, de respecter son programme municipal. Deuxièmement, si je le reportais, On ne parlerait que de ça pendant les prochaines municipales. Je vous retire une épine du pied à vous, les démocrates, respectueux de la liberté de conscience et des cultes. Je vous retire une épine du pied puisque je vous propose de débarrasser le débat municipal prochain de cette question. À partir du moment où on a traité ce problème, on peut parler de l'avenir de Metz sans être complètement pollué par un débat qui pourrait amener à des débordements que je regretterai. Voilà ce que je voulais vous dire avec beaucoup de sincérité. Alors on me demande d'être serein. Madame, je vais vous répondre, je suis complètement serein parce que j'ai ma conscience avec moi. Je respecte trop les gens qui ont une foi de croyants pour ne pas les prendre en considération, fussent-ils musulmans. Je vous remercie. Alors je mets aux voix, Monsieur Thiel, pour explication de vote.
Écoutez, Monsieur le maire, vous avez remarqué que je n'avais pas pris part au
débat. Ça ne m'a pas échappé.
Je souscris complètement aux propos qui ont été préparés et dits par Madame Zimmermann, puisque nous les avions complètement préparés ensemble, et je crois que tout a été dit là-dessus. Ce qui m'importait d'avoir, c'était vos réponses. Et puisque vous faisiez allusion à mon article, j'avais demandé si je pouvais le rectifier lundi.
Ah.
Et devant l'insistance des services de la communication, il fallait bien que je conclue. Et je pourrais même vous présenter mon article sans la conclusion, mais on m'a demandé qu'il fallait absolument le donner avant 5 heures. J'ai dit de façon à ce que le maire en soit informé, donc allons-y. Alors, moi, je vais vous dire, monsieur le maire, ces questions-là demandent effectivement sérénité et respect. Vous m'avez plusieurs fois cité, et je vous en remercie, sur Metz la Tolérante. Je dirais, moi, au-delà de Metz la Tolérante, j'ai eu l'immense honneur de m'occuper pendant 7 ans de ces questions. Culture et culte. Mais je ne dis que culte, là. Culture et culte. Lorsque je m'en occupais, cet hôtel de ville devenait une fois par an l'hôtel non pas seulement des citoyens, mais figurez-vous, l'hôtel des croyants, qui en vertu de la laïcité ont droit à l'expression. De même qu'ici nous recevons les libres penseurs ou des congrès maçonniques, j'avais trouvé extrêmement intéressant, ne serait-ce que pour la pensée et la philosophie, que nous puissions retrouver les croyants. Et cette salle a été le moment chaque année d'un extraordinaire printemps que nous avions appelé, que j'avais souhaité appeler le printemps des religions, où à une même table siégeaient le grand rabbin, le représentant de l'évêque, le pasteur Van Deningen, que nous connaissions bien et dont nous regrettons la disparition, et un des imams très connus et très célèbres de Borny. Voir ici des gens à la fois portant le voile islamique et la kippa, pour ne citer que ça, dans cette enceinte, était pour moi une joie souveraine. Parce que Metz la Tolérante avait cette image chaque année dans cette salle. C'est dire combien, je crois, monsieur le maire, ne nous faisons pas de faux procès. Il n'y a pas d'un côté les démocrates soucieux de la liberté du culte et d'y apporter les moyens, et d'un autre côté ceux qui seraient restrictifs à cet égard et qui ne porteraient pas les mêmes vertus que vous. Moi, je crois solennellement à la démocratie, et la démocratie passe par la liberté du culte et la liberté de penser. Ceci étant dit, monsieur le maire, j'aurais souhaité que les choses prennent une forme que je qualifierais à la fois de républicaine et de respect de nos traditions qui sont dans le concordat. Or, dans vos explications, permettez-moi de vous le dire, vous avez soigneusement mélangé les choses. Premièrement, je voudrais vous dire que vous nous avez cité un certain nombre de maires de droite et de gauche qui avaient prévu des lieux de culte et qui les ont même en partie financés. Oui, monsieur le maire, c'est vrai. Lorsqu'il y avait des problèmes de lieux de culte, les municipalités se sont penchées pour donner ces éléments. En effet, lorsqu'il y a un problème de lieu de culte, il faut effectivement le résoudre. Et chacun y apporte sa contribution. Mais, monsieur le maire, l'étude de 2003 que j'avais demandée et qui a été fait extrêmement sérieusement par deux universitaires dont je ne me souviens plus d'ailleurs si l'un était musulman, ça j'en suis sûr, mais peut-être même le deuxième, ont consisté à auditer toutes les communautés de Metz, toutes. Et la conclusion était qu'ils préféraient des paroisses aux sensibilités différentes, et j'emploie paroisse pour que ça vous parle, parce que je sais bien que ce n'est pas le terme, plutôt qu'une grande cathédrale où chaque sensibilité devait cohabiter. C'était cela la conclusion. Et monsieur le maire, je vous le dis, vous qui êtes tellement avide d'études et prêt à dépenser quelques milliers d'euros, voire 10 milliers d'euros pour faire des études, nous aurions apprécié, je parle bien au nom des deux groupes en cette explication de vote, que vous fassiez une étude pour revenir 10 ans après celle de 2003, nous dire qu'il y avait de nouveaux besoins. Et nous le dire et nous le prouver, il n'y a aucune prière de rue à Metz. Deuxièmement, monsieur le maire, vous nous dites, moi, je contractualise avec une association ad hoc. Libre à vous, je ne l'aurais pas fait. Et j'ai mes raisons. Et je les ai exposées. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on veut contractualiser avec le culte musulman, vous avez rendu hommage au président Sarkozy d'avoir organisé les choses, la signature doit être très clairement apposée entre le représentant de la ville de Metz et le représentant officiel du Conseil français du culte musulman.
Ils n'ont pas ce pouvoir.
Et personne d'autre. C'est à eux de contractualiser au nom de tous les musulmans, puisque c'était cette association qui les représente. Certes, il n'y a pas de clergé, certes, il n'y a pas d'organisme officiel, mais c'est la vertu du président Sarkozy, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, d'avoir organisé les choses. Il y a un président national qui s'appelle M. Boubacar, il y a des représentants qui sont élus et il y a des représentants en région avec lesquels nous aurions contractualisé, ce que vous n'avez pas fait. Enfin, je dois dire qu'il y a le principe républicain. Ce soir, nous faisons quelque chose de nouveau. En effet, vous me citez les paroisses, vous me citez la synagogue. Mais monsieur le maire, ce sont des cultes reconnus auxquels le concordat accorde non seulement le droit, mais l'obligation pour les communes de financer un certain nombre de choses. Et si nous ne le faisions pas, nous serions hors la loi. Et c'est à ce titre, monsieur le maire, que nous finançons des travaux à Notre-Dame, etc., etc., que nous prenons en charge un certain nombre de choses, parce que ce n'est pas notre volonté de le faire, c'est l'obligation légale. Donc, en fait, il ne s'agit pas de comparer ce que nous faisons ce soir à la synagogue ou à je ne sais quelle paroisse, comme Saint-François, il s'agit de comparer aux cultes non reconnus. Or, nous vous redisons aujourd'hui qu'il existe un certain nombre de cultes non reconnus. Il existe aussi les bouddhistes, dont on n'a pas parlé, qui pourraient demain venir pour demander un lieu de culte où on leur donne la même chose, etc. Et il y a les cultes chrétiens non reconnus, notamment les évangélistes, les apostolistes, etc., sur lesquels jamais on a été engagé financièrement, comme vous nous le proposez ce soir. Ça, c'est le principe du concordat. Donc, monsieur le maire, je trouve que cette affaire est mal emmanchée à la fois sur le principe concordataire et sur le principe de laïcité, et sur le principe, tout simplement, des lois républicaines qui veulent qu'une fois qu'on a fait quelque chose pour quelqu'un, eh bien, tous ceux qui entrent dans les mêmes conditions disposent du même appui financier. Donc, je dis, votre dossier, monsieur le maire, aujourd'hui, n'est pas correct. Ce n'est pas un dossier tel que moi, en tous les cas, ou d'autres, ici, l'auraient présenté. Et c'est pourquoi j'avais un doute. C'est pour ça que j'ai téléphoné au service... que ma secrétaire a fait téléphoner au service de la communication. J'ai dit peut-être que finalement, le maire, il est d'accord avec tout ce que je viens de dire. Et à ce moment-là, il accepte l'amendement. Tout à l'heure, vous nous avez dit, monsieur le maire, écoutez, chers amis, je ne peux pas accepter votre amendement pour tout un tas de raisons, mais notamment parce que je ne peux pas m'interdire de financer de la culture, entre guillemets, cultuelle. Nous finançons bien art et foi à la cathédrale, nous finançons bien les journées des cultures juives. Mais monsieur le maire, demain, vous venez... Une association nous demande de financer quelque chose sur la culture de l'islam, mais nous serions d'accord, tellement d'accord que nous l'avons fait, monsieur le maire. J'ai organisé des expositions sur la calligraphie islamique dans les lieux de la ville, et tout ça s'est très bien passé. Donc ne faites pas le procès à notre amendement d'interdire cela. S'il est rédigé avec des mots pesés, où il est simplement dit que nous refusons un financement de fonctionnement à ce qui est attenant à cette mosquée, et pas aux associations X ou Y qui viendraient organiser quelque chose à l'extérieur ou même à l'intérieur du lieu du culte musulman. Donc je trouve que tout ça mérite d'être subtil. Enfin, monsieur le maire, je voudrais vous dire, et simplement daigner que je vous le dise, si ce projet ne posait de questions à personne, votre tentative de communication et de communication avec à la fois le grand rabbin et l'évêque aurait marché. Or, vous le savez bien, le fait même de contractualiser avec une association ad hoc, dont je ne dirai rien davantage, et non pas en apposant votre signature aux côtés de celle du représentant du Conseil français du culte musulman local, a posé justement un problème à ces deux entités religieuses. Alors, monsieur le maire, la liberté de religion, oui, l'exercice du culte, oui, mais pas dans la division de la société, mais au contraire dans l'union de la société, dans le rassemblement des messins. Et que ce soit le rassemblement des messins, catholiques, juifs ou autres, qui portent ce projet, et vous savez comme moi que les communautés religieuses, et nous le savons bien, sont elles aussi, monsieur le maire, tolérantes, et que s'il y a eu absence de ces deux entités très visibles à Metz, c'est qu'elles avaient leurs raisons et que nous partageons ces raisons. En conséquence, compte tenu de vos réponses à des questions que nous pensions fondamentales, et sans autre préjugé du tout, moi je m'exprime ici au nom des deux groupes, sans autre préjugé, nous vous disons que compte tenu de vos réponses, nous ne participerons pas à ce vote.
Merci. Merci, monsieur Thiel. Monsieur Thiel, votre explication de vote était un peu longue.
Oui,
je vais me permettre d'apporter quelques précisions. L'étude de 2003, bien entendu, je l'ai lue et je l'ai regardée de près. Je vais vous en dire la phrase de conclusion principale, au cas où vous aurez échappé à l'époque, jadis naguère. L'étude dit tout ce que vous avez dit et elle conclut « Si un tel lieu devait être envisagé, il ne le pourrait que dans la mesure où existe en amont à la fois une demande explicite, c'est le cas, et un projet et un groupe constitué clairement identifié. » Et nous avons maintenant...
Dans aucun
permettez-moi
cas,
de vous permettez-moi de lire.
C'est pas
ah, Monsieur Thiel, si vous voulez bien ne pas m'interrompre.
Non, mais c'est.
Et donc cette condition est largement respectée par l'association qui s'est créée. J'ajouterai, et vous le savez sans doute pas, Monsieur Thiel, parce que c'est un peu compliqué. Le Conseil représentatif du culte musulman n'est en aucun cas habilité à contractualiser quoi que ce soit. Monsieur Sarkozy, quand il l'a créé, je vais vous expliquer de quoi il s'agit, parce que j'ai regardé de près, a créé une institution représentative, en aucun cas une structure capable de créer des mosquées. Les mosquées ne relèvent pas du CRCM. Le CRCM est une institution... Le CRCM est une institution destinée à représenter le culte musulman dans les discussions avec l'État. Et je vous ai indiqué que le représentant régional, qui par ailleurs est adjoint au maire de Voipy, figure dans l'association avec laquelle nous avons discuté. Enfin, j'ajouterai, mais ça c'est une petite question locale, mais c'est important, ça m'étonne de vous. Vous avez cité plusieurs fois le Concordat, Madame Zimmermann aussi. Ne brouillez pas tout. Le Concordat ne concerne que la religion catholique. Je ne vais pas faire un cours ici. Non, non. Ah, oh, s'il vous plaît, Monsieur Thiel, le Concordat ne concerne qu'un débat entre le pape et Pie VII. Les autres...
Mais laissez-le terminer.
Les autres décisions... Je vais réussir à terminer.
C'est incroyable.
Les autres décisions ne relèvent pas du Concordat. Elles relèvent du Sanhédrin, qui a discuté également avec Napoléon, mais ce n'est pas le Concordat. Et la décision relative aux protestants... est également relatif à une autre décision. Je m'excuse d'être obligé de mettre des points sur les i, mais c'est des points d'histoire.
Non, c'est vrai. C'est vrai.
Écoutez,
s'énerver comme ça. Pourquoi il s'énerve?
Mais vous... attendez, j'ai... le débat est terminé. Je me permets de faire un point d'histoire. Quand on fait la leçon sur le concordat, on fait attention, le concordat ne respecte, ne représente que le culte catholique. Je suis...
Bah, demande à la presse qu'il fasse leur étude.
Vous confondez avec le droit local qui représente les trois religions. Bien. Mais non. Le concordat est un document qui a été signé entre le pape et Napoléon. Bien, cette mise au point est sur laquelle je suis formel est en fait, je mets aux voix. 1. Qui est pour? Eh bien écoutez, le point est adopté à l'unanimité. Je vous remercie.